Pouvez-vous imaginer des patients devant attendre des semaines avant de pouvoir être soignés? L'année dernière, un hôpital m'a appelé pour coacher un service qui était sur le point de fermer. Ça allait mettre en péril une partie de l'organisation de l'hôpital. Les médecins démissionnaient les uns après les autres. Le personnel administratif et soignant était complètement démotivé. Et après analyse, il s'est avéré que tout cela était lié au style de leadership du chef de service, que nous appellerons le Dr X. Ce Dr X est quelqu'un de très autoritaire, très contrôlant et très peu communicant. Et pourtant, c'est une sommité mondiale dans son domaine d'expertise. Vous, comme moi, en tant que patient, nous voulons être soignés par ces demi-dieux sur Terre. Mais s'il n'est pas capable de garder son équipe, il y a de fortes chances que son expertise disparaisse avec lui et qu'il ne puisse pas soigner autant de patients que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Être un excellent médecin ne fait pas de lui un excellent manager. Et cela, les chasseurs de tête l'ont bien compris. Je suis Marie-Bernard Guillaume et je vais vous expliquer ce soir pourquoi de chasseuse de tête, je suis devenue chasseuse de cœur. La plupart des chefs d'entreprise que je rencontre partagent la même préoccupation. Comment motiver son personnel? Savez-vous que selon les études Gallup, seul un collaborateur sur 10 est réellement heureux au travail, passionné? 7 sur 10 viennent faire leur boulot, mais il ne faut pas leur en demander plus. 2 sur 10 sont même des saboteurs actifs. Ils viennent avec leur mal-être au travail et ils empêchent les autres de fonctionner correctement. Imaginez la catastrophe que ce serait si on appliquait ce ratio à notre équipe nationale de football, à nos Diables Rouges. Et là, je vois que vous commencez à avoir mal. Vous comprenez le problème des managers. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur peut être motivé? Vous connaissez tous la pyramide de Maslow? Oubliez-la. D'autres études ont démontré que nous partageons tous trois besoins, trois facteurs de motivation qui sont universels, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit jeune ou vieux. Quelles que soient vos croyances philosophiques ou religieuses, nous partageons ces facteurs et ces besoins. Le premier besoin est le besoin de développement personnel. C'est pouvoir utiliser mes capacités pour réaliser mes rêves, pour atteindre des objectifs. C'est le « waouh, qu'est-ce que je suis bon, j'ai réussi, je suis fier de moi ». Le deuxième besoin est le besoin d'autonomie. C'est de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Le troisième besoin est le besoin de connectivité, c'est de pouvoir se sentir appartenir et en lien avec une communauté, avec une équipe, avec une famille, être soutenu, c'est être liké sur Facebook. Et donc, vous l'aurez compris, l'entreprise qui est capable de répondre à ces trois facteurs a de grandes chances de voir le taux d'engagement de ses collaborateurs beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Or, la plupart des managers aujourd'hui fonctionnent encore à l'instar de notre Dr X, avec une pyramide hiérarchique qui est bien définie, avec des rôles et des fonctions qui encadrent les rôles de tout en chacun, ce qui a pour effet de brimer et de tuer tout besoin d'autonomie et toute prise d'initiative. Heureusement, de plus en plus d'entreprises ont compris ce problème et mettent en place des cultures de leadership participatif, collaboratif. Dans ces entreprises, le bien-être du collaborateur prime les résultats, le succès, et les résultats financiers en seront les conséquences, et non l'inverse. On inverse également la pyramide hiérarchique pour remplacer les managers par des équipes qui prennent des décisions ensemble, collectivement. On n'est pas dans le monde des bisounours, évidemment, il y a des résultats à atteindre, il y a des objectifs, mais il y a surtout une vision et des valeurs qui sont partagées par tous. On est au volant de son travail. Je pourrais citer plusieurs exemples de succès. Je vais vous parler d'une entreprise que vous connaissez certainement tous, vu l'âge moyen de la salle. Il s'agit de Netflix, l'entreprise de la Silicon Valley. Ils ont décidé de mettre en place une culture RH dans laquelle on va prôner la responsabilité et la liberté. Imaginez, vous êtes libre d'organiser votre travail comme bon vous semble et où bon vous semble. On ne va pas vérifier vos notes de frais. On ne va pas contrôler le nombre de jours de congés que vous prenez. On vous demande simplement d'agir au mieux pour le bien de l'entreprise. Ce n'est pas là une belle réponse aux besoins d'autonomie. On vous demande également de prendre des initiatives et on accepte que vous puissiez vous tromper parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui a pour effet de créer un mouvement d'innovation et d'intrapreneurship au sein de l'entreprise. Alors, je pourrais citer d'autres exemples de succès, mais portons maintenant notre focus sur les acteurs de ces changements. Qui sont-ils ? C'est bien évidemment les dirigeants d'entreprise et les managers, mais c'est aussi chacun d'entre vous, chacun des collaborateurs, chacun des employés. Et pour plagier Gandhi, je dirais, soyez le changement que vous voulez voir dans votre entreprise. Et pour ce faire, cela nécessite de belles qualités humaines, ça nécessite une intelligence émotionnelle développée. Et j'entends par là des qualités comme l'empathie, la bienveillance, l'écoute, la tolérance. Et comment faire pour développer cette intelligence émotionnelle ? Vous me direz, certains sont plus doués que d'autres. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est que vous êtes tous dotés de ces qualités. Elles font partie de votre nature humaine. Elles sont simplement parasitées au quotidien par les différents stress qui nous entourent. Ça peut être des stress d'ordre physique. Je vous défie d'être bienveillant avec votre dentiste pendant qu'il vous arrache une dent, d'ordre émotionnel ou d'ordre mental. Et donc, il suffit de laisser tomber ces stress pour redécouvrir toutes ces qualités et pouvoir les déployer autour de vous. Facile à dire, mais comment faire ? Et c'est là où je ferai un parallèle avec l'émergence dans notre société de la pleine conscience et de la méditation. Ce n'est pas un hasard si on voit ces outils émerger dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises, et même au dernier sommet mondial de l'économie à Davos, où on proposait à chacun des participants une séance de méditation avant de démarrer la journée. Je pourrais à nouveau faire l'étalage de toutes les études qui démontrent la corrélation et l'impact positif de la pleine conscience sur la créativité et sur l'intelligence émotionnelle. Mais je vais vous proposer ce soir de plutôt expérimenter une pause de pleine conscience ensemble. Je vous demande d'accepter cet exercice avec cet esprit ouvert qui vous a amené ici aujourd'hui, sans préjugés. C'est un outil que vous pourrez utiliser à n'importe quel moment de la journée, dans le train, dans une file d'attente, en entreprise, avant une réunion, et même pendant un TED Talk. Êtes-vous prêt ? Alors allons-y. Je vous propose de fermer vos yeux, de vous installer confortablement dans votre siège, de sentir le poids de votre corps sur le siège, des pieds sur le sol, le poids des vêtements sur la peau et sentez le souffle de l'air sur le visage et sur les mains. Observez votre respiration simplement. Laissez tomber toutes les tensions, toutes les idées, tous les jugements. Respirez. Portez à présent votre attention sur les sons les plus proches. Et élargissez votre écoute aux sons les plus lointains. Et reposez-vous simplement quelques instants, ici et maintenant. Respirez profondément, ouvrez les yeux et reconnectez-vous avec le monde extérieur dans cette pièce. Avec vos voisins. Le monde est en pleine mutation. Hier, dans une économie industrielle, on demandait aux chasseurs de têtes de recruter de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans une économie de la connaissance, on lui demande de recruter des cerveaux, des diplômes. Je suis convaincue que l'intelligence artificielle va nous donner accès demain à des niveaux de connaissances comme nous n'en avons jamais eu jusqu'à présent. Je suis convaincue que l'intelligence artificielle va poser sur le patient un diagnostic qui va être plus pertinent que celui de notre docteur X. Et ce qu'on attendra de notre docteur X, ce sont ses qualités humaines. Parce que c'est l'humain qui va inspirer les autres. c'est l'humain qui va apporter des nouvelles idées. C'est l'humain qui fera que les organisations et les entreprises de demain pourront connaître le succès. Et nous arrivons ainsi dans une économie humaniste, où les qualités relationnelles, de créativité et de cœur seront les critères de sélection des chasseurs de têtes. Je ne peux dès lors que vous encourager tous et toutes à cultiver et à déployer ces belles qualités que vous possédez, à pratiquer sans modération la pleine conscience ou tout autre outil qui vous permettra de vous reconnecter à votre propre humanité, à votre propre infinitude. Merci et bon travail.